Bonjour à tous, merci pour cet accueil chaleureux. Je suis d'origine canadienne. Quand je suis arrivé en France il y a 32 ans maintenant, ça remonte, non, je dis des bêtises, je suis arrivé en 80, il y a 33 ans et demi, j'avais beaucoup de mal à faire comprendre mon prénom. Brad, les gens disaient Brad, quoi? Mais depuis qu'il y a Brad Pitt, ça passe tout seul. Donc, mon épouse s'appelle Catherine, elle est française de la Haute-Savoie et nous servons le Seigneur ensemble. D'abord à Gap, dans les Hautes-Alpes, où on a fait une implantation d'église. Ensuite, à Grenoble, à deux endroits où nous avons aidé des églises depuis 21 ans. Et puis, nous sommes depuis le 1er octobre à Aix-en-Provence. Donc, c'est nouveau pour nous d'être dans le sud. Et nous sommes là pour un projet en commun avec Philippe Peria, peut-être que vous connaissez, de Marseille, et pour un projet d'implantation d'église et une œuvre d'évangélisation parmi les étudiants, qui s'appellera Le Feu. Et puis aussi pour un programme de formation à l'implantation d'églises. Donc voilà, nous sommes un petit peu voisins. Depuis Grenoble, on a l'impression qu'Aix et Grasse est à côté, mais une fois qu'on fait la route Aix-Grasse, on se rend compte que ce n'est pas quand même la porte à côté. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un thème que j'ai appelé « Pour un développement durable de l'Église ». Alors le développement durable, c'est un thème un petit peu à la mode, n'est-ce pas? Alors je vous mets à l'aise, ce ne sera pas un discours politique ce matin, puisqu'il s'agit du développement durable de l'Église. Et nous allons prendre un texte ensemble dans la première épître de Paul aux Corinthiens, donc 1 Corinthiens au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 12. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 12, et puis on lira le chapitre 3 avec aussi. Et alors, on cherche, il y a un petit support PowerPoint, ça va venir aussi, peut-être. Si vous devez retenir une chose ce matin de cette prédication, je vous invite à retenir ceci, que pour un développement durable de l'Église, il faut des bâtisseurs spirituels. C'est-à-dire pour qu'une église dure, il ne s'agit pas d'avoir des gens très très doués, un prédicateur star, des musiciens hors pair, des animateurs enfants excellents. Il s'agit d'avoir des gens, des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur, qui sont à l'écoute du Seigneur, qui sont proches du Seigneur. Et nous verrons ça dans ce texte. Dans la diapo suivante, je vais vous afficher le plan du texte. Ces bâtisseurs, il faut qu'ils soient spirituels, il faut qu'ils soient aimants, il faut qu'ils soient unis, il faut qu'ils soient solidement fondés en Christ, qu'ils construisent en vue de l'éternité et qu'ils aient saisi la valeur inestimable, suprême, de l'Église. Alors, avec ce plan derrière moi, nous allons maintenant lire le texte à partir d'1 Corinthiens au chapitre 2 et verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, il faut des bâtisseurs spirituels. Et dans ce texte, on va nous présenter trois types de personnes, trois types d'hommes, de femmes. Donc, premier type, ce sera l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme et la femme, nés d'Adam et Ève, comme nous le sommes tous, avec notre nature humaine, mais sans l'Esprit de Dieu, sans la nouvelle naissance. Ensuite, il nous parlera de l'homme spirituel, donc des hommes et des femmes nés de l'Esprit de Dieu, nés de nouveau, avec la pensée de Christ, comme il est dit dans le texte. Et puis, il crée une troisième catégorie qui lui arrache un peu la bouche parce qu'il n'aime pas trop, mais il appelle ça le chrétien charnel ou le bébé en Christ, et dont il parlera aussi. Donc nous allons prendre ces trois types de personnes, et peut-être que tout au long, vous pouvez être en train de réfléchir aussi où vous vous placez dans ces trois catégories. Donc d'abord, l'homme charnel. Donc l'homme charnel ou l'homme naturel, l'apôtre Paul dit dans le verset 14, « Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Cette personne a cette particularité, elle est aveugle spirituellement. Elle ne comprend pas les choses de Dieu parce que pour comprendre les choses de Dieu, il faut une révélation. Il faut que l'Esprit de Dieu nous éveille, qu'il nous éclaire, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous voyions Dieu, pour que nous voyions Jésus-Christ. Mais cette personne, en fait, n'est pas éclairé. Et peut-être que vous avez eu déjà cette expérience d'avoir l'impression d'être pas sur la même planète, avec des gens qui sont pourtant proches de vous, peut-être même dans votre propre famille ou des collègues de travail, des voisins, qui ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez. Ils pourraient se dire, par exemple, mais qu'est-ce qu'ils font le dimanche matin, aller s'enfermer dans cette salle pendant 2 heures, alors qu'ils pourraient être à la plage, aux champignons, au fond de leur lit, il y a mille autres choses plus intéressantes qu'ils pourraient faire. Ne peuvent pas comprendre. Et si on devait faire le dessin de la vie de cette personne, on mettrait Christ à l'extérieur et à l'intérieur, il y a un petit siège, le trône, et c'est soi-même qui gère la vie avec les divers éléments de la vie. Deuxième catégorie de personnes, c'est l'homme, la femme spirituelle. L'apôtre Paul dit au sujet de cette personne, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, c'est-à-dire qu'il a du discernement spirituel. Il voit les choses, elle voit les choses comme Dieu les voit. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je trouve magnifique cette phrase, que Dieu, dans sa grâce, ait daigné nous donner non seulement le salut, mais nous donner Christ. Et en nous donnant Christ, nous donner aussi la pensée de Christ, c'est-à-dire que nous ne voyons pas le monde comme nous le voyons avant d'être au Seigneur. Nous ne nous voyons pas nous-mêmes comme on se voyait avant. Nous ne voyons pas notre prochain de la même manière. Nous ne voyons pas Dieu de la même manière, mais nous voyons les choses avec la pensée du Christ. Cette fois-ci, Christ est au centre de la vie. Tous les éléments de la vie sont soumis à l'autorité du Christ dans notre vie. Alors j'imagine les Corinthiens, il y a 2000 ans à peu près, quand ils ont reçu cette lettre, ils étaient réunis dans leur peut-être dans une maison, peut-être dans une salle, je ne sais pas, et quelqu'un est entré ce jour-là en disant « Nous avons reçu une lettre de l'apôtre Paul, une lettre de l'apôtre Paul !» Alors tout le monde est excité, « Lisez-la, lisez-la !» Alors ils lisent les 2 premiers chapitres, l'homme naturel, oui, on sait ce que c'est, ça. L'homme spirituel, oui, c'est beau, la pensée de Christ, magnifique. Et puis l'apôtre Paul commence le chapitre 3 en disant, « Mais à vous, frères et sœurs, je n'ai pas pu m'adresser comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. » Et j'imagine l'ambiance dans la salle faire « pshhh ». Ça fait drôle. Alors qu'est-ce que c'est que cet chrétien charnel? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants en Christ. Et on peut afficher le dessin, voilà. Cette fois-ci, le dessin n'est pas exactement comme le premier dessin, parce que le Christ est dans la vie de cette personne, puisque Paul dit « comme des enfants en Christ », qui s'adresse à des chrétiens. Mais malheureusement, la vie de ces gens ressemble comme 2 gouttes d'eau à la vie de personnes non éclairées, à la vie de personnes sans le discernement spirituel, sans la vie en Christ. Alors on peut se demander, mais à quoi? À quoi est-ce que l'apôtre Paul a vu tout cela? Ou on peut, même avant de se poser cette question, on va se poser la question: est-ce que c'est grave d'être petit enfant en Christ? Est-ce que ce n'est pas une des options dans la vie chrétienne? Vous savez, option A ou B. Option A, ce serait juste le salut, le ticket pour le ciel, hein, l'assurance vie. Et l'option B, ce serait la vie remplie de l'Esprit, la vie de Christ sur la terre. Est-ce qu'on peut juste prendre le A et puis un peu végéter dans la vie chrétienne et puis rentrer dans le ciel? Alors, on peut passer. Donc, je pose la question. Est-ce que c'est grave de rester d'être un petit enfant en Christ? Je réponds non, mais c'est grave de rester petit enfant en Christ. Quelque chose vous choque dans cette image, je pense. Avec mon épouse, nous sommes grands-parents maintenant 2 fois. On a beaucoup de joie à observer nos petits-enfants. On en a un qui est né il y a 15 jours. Alors, on guette le premier sourire. « Oh, c'est magnifique. Oh, elle tient la tête toute seule. Oh, elle reste assise. Oh, elle se lève. Oh, les premiers pas. Et puis, quand ils disent grandpa pour la première fois, alors là, le cœur, il bat très fort. On se réjouit de toutes ces petites étapes que l'enfant franchit. Mais imaginez l'inquiétude de parents et de grands-parents si l'enfant ne franchissait pas ces étapes. Vite, on va chez le médecin. Docteur, quelque chose ne va pas. Mon enfant semble pas être en communication avec nous. Il ne marche pas, il ne parle pas. Quelque chose ne va pas, docteur. Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ce n'est pas normal de rester bébé chrétien? L'Esprit Saint qui vous a été donné travaille en vous pour vous amener à la maturité en Christ. Il a un cahier des charges. Son cahier des charges, c'est de vous conformer à l'image de Christ jour après jour. Et normalement, on doit pouvoir jeter un regard en arrière, il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Je m'adresse à des jeunes et à des moins jeunes. On devrait pouvoir jeter ce regard en arrière et se dire, c'est vrai. J'ai l'impression de connaître le Seigneur un peu mieux. J'ai l'impression de l'aimer un peu mieux. Je vois qu'il travaille dans ma vie. Il y a tant de choses à faire encore, je suis d'accord avec vous et pour moi aussi. Mais le Seigneur travaille et j'avance, je grandis en lui. Et si vous ne grandissez pas, alors criez au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, quelque chose ne va pas, montre-moi. Et là, on se pose la question, à quoi est-ce que l'apôtre Paul a vu que ces Corinthiens étaient encore bébés chrétiens? À quoi est-ce qu'il a vu qu'ils étaient charnels? Est-ce que c'était la manière dont ils s'habillaient? Est-ce que c'était leur langage? Est-ce que c'était autre chose? Alors nous allons afficher le texte suivant. Il leur dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? C'est à leur relation interpersonnelle au sein de l'Église que l'apôtre Paul a vu qu'ils n'étaient pas très mûrs dans la foi. Parce que le chrétien mûr est caractérisé plus par des relations d'amour, de grâce, de pardon et d'unité. On peut s'attendre à ces choses dans des partis politiques, ça ne nous choque plus. On peut s'attendre à ces choses dans une équipe de travail. On se dit, c'est la vie. Mais quand ça arrive dans l'Église, on se dit quelque part, ce n'est pas normal. Et je ne connais pas votre Église, donc je ne prêche pas par rapport à quelque chose dans votre Église. Continuons. À quoi est-ce qu'il a vu qu'ils étaient des bébés chrétiens? Il leur dit, quand l'un de vous déclare, j'appartiens à Paul, et un autre, j'appartiens à Apollos, n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain? Ils voient chez eux un comportement humain. Ils ne voient pas le comportement surnaturel donné par l'Esprit de Dieu. Alors, pour illustrer ça, je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite avec mon fils. Je vous ai dit que nous avons habité à Grenoble pendant très longtemps. Et vous le savez ou vous ne le savez pas, mais la ville de Grenoble a eu pendant une année une équipe de football en première division. S'il y a des fans de football, ils se rappelleront, c'était il y a 5 saisons. Après, c'était la descente aux enfers, je crois qu'ils sont en 4e division ou quelque chose comme ça. Mais pendant cette une année où ils étaient en première division, ils ont construit un magnifique stade tout neuf qui a coûté très cher aux citoyens. Et puis, mon fils m'a entraîné voir un match de foot. Je n'avais jamais vu un match de foot professionnel. Et comme je ne suis pas totalement fan de football, j'ai fait 2 choses. J'ai regardé le match et puis j'ai fait des observations sociologiques au sujet du supporter de football moyen. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté ceci. C'est quand l'arbitre sifflait une faute contre un joueur monégasque, parce que c'était Monaco ce jour-là, ah ben, tout le stade grenoblois applaudissait l'arbitre. Et quand l'arbitre sifflait une faute contre un joueur grenoblois, ah ben, tout le stade sifflait contre l'arbitre. Alors je l'ai vu une fois, deux fois, quatre fois. Je me dis, il semble pas y avoir ici de souci pour la justice. C'est plutôt un esprit clanique, c'est nous contre eux, peu importe qui a raison, qui a tort. Et c'est normal dans un stade de foot, je suppose. Mais ce n'est pas normal dans l'Église de Jésus-Christ. Quelquefois, les bébés chrétiens sont un peu comme des bébés canards, vous savez, qui s'attachent au premier grand qui passe et qui s'occupe un peu d'eux, et puis ils deviennent inconditionnels de cette personne-là. Alors, ça peut être John Darby pour certains, ou John Alexander pour d'autres, ou John McCarthy, ou John Piper, ou John quelqu'un d'autre. Et ils s'y attachent, et puis de manière inconditionnelle. L'apôtre Paul va dire, c'est pas si important, Paul ou Apollos, c'est Christ qui est important. C'est Christ qui est important. Celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. C'est Dieu qui fait croître, c'est lui qui donne le miracle de la vie. Toute la gloire doit lui revenir. Et un chrétien mûr est un chrétien solidement enraciné en Christ. C'est ce que nous voyons dans le texte suivant. Ce matin, vous vous êtes rassemblés et vous avez partagé ensemble le pain et le vin. Je suppose que vous le faites tous les dimanches ou quasiment tous les dimanches. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça vous rappelle le fondement. Christ et Christ seul. Et tout dépend de notre relation à lui. Et donc, si on n'est pas en train de grandir, peut-être se rapprocher de Christ, recreuser jusqu'au fondement et puis rebâtir avec lui au centre. Et c'est vite fait, génération après génération, si on construit juste un petit peu à côté, et bien qu'un jour la maison tombe. Autre point. Ces bâtisseurs qui construisent de manière durable, eh bien, ils construisent en vue de l'éternité. Ils construisent avec la crainte de Dieu et avec en vue le jour du jugement. Et l'apôtre Paul parlera de deux catégories d'œuvres ici, celles qui résisteront au jugement, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et celles qui ne résisteront pas, qui comparent à du bois, du foin, des choses qui se consument, qui brûlent. Nous ne parlons pas ici du jugement qui détermine qui entre au ciel ou pas, qui passera l'éternité avec Dieu ou pas. Parce que nous savons qu'aucune œuvre ne peut nous procurer la vie éternelle et que personne ne mérite de passer l'éternité avec Dieu. Donc tout cela, ça dépend uniquement de la grâce de Christ. Il parle ici d'un autre jugement, un jugement auquel les chrétiens sont appelés à se présenter. À la fin de notre vie, Dieu passera en revue nos œuvres et regardera ses œuvres pour voir lesquelles ont été de valeur éternelle et lesquelles n'ont servi à rien en termes d'éternité. Alors j'ai pensé à une illustration moderne. L'apôtre Paul parle d'incendie. Moi j'ai pensé à ceci, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais quand vous allez prendre l'avion, vous vous présentez à la sécurité avec votre valise et vous avez plusieurs objets dans votre valise et vous la mettez sur je sais plus comment ça s'appelle, tapis roulant, et ça passe dans une petite boîte et puis quelqu'un voit en un coup d'œil, c'est instantané, les matières dont sont composées fabriquer les articles dans votre valise, en un coup d'œil. Et je pense que le Seigneur verra aussi en un coup d'œil ce de quoi a été composée notre vie. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas pour mériter notre salut, mais c'est plutôt des œuvres qui ont de la valeur et qui vont nous suivre jusque dans l'éternité et qu'un jour on pourra poser aussi aux pieds du Seigneur en disant, Seigneur, dans ta grâce, tu m'as permis à te servir, de te servir. Et je te remercie. Et toutes ces choses sont pour te glorifier. Ce ne sera pas non plus pour nous glorifier, mais ce sera une grande joie ce jour-là de pouvoir faire cela. Nous avons rencontré une famille il y a quelques années dans un camp famille. Et venaient d'expérimenter quelque chose de traumatique. Ils étaient dans leur maison, ils faisaient des frites dans le garage. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais la friteuse a pris feu. Et très rapidement, la maison s'est remplie de fumée toxique. Et ils ont juste eu le temps de prendre leurs enfants par la main, de sortir en courant. Et ils se sont mis là sur le trottoir devant leur maison. Et ils ont vu leur maison partir en fumée, c'est le cas de le dire. Et à 40 ans, ils se sont trouvés sans voiture, elle était dans le garage. Sans garage, sans maison, sans vêtements, sans meubles, sans photos de famille, sans papiers importants, à recommencer leur vie matérielle à zéro. Et l'apôtre Paul nous dit ici que malheureusement, certains chrétiens, en arrivant au ciel, ils vont arriver comme ça, nus, d'œuvres qui ont glorifié le Seigneur. Et ce sera un moment, je pense, triste. On se réjouira de son salut et on se dira peut-être, ah, j'aurais tant voulu mieux servir le Seigneur. Alors ça suppose une question que je pose maintenant, c'est comment savoir? Comment savoir aujourd'hui si nous utilisons des matériaux de construction nobles qui vont durer pour l'éternité? Alors j'ai quelques suggestions. Je pense d'abord à la parole de Dieu. Ce discernement du Christ, elle nous vient aussi par la parole de Dieu, l'illumination de l'Esprit-Saint à partir de la parole de Dieu. Donc, on va pouvoir discerner, en connaissant de mieux en mieux la parole, ce qui, dans notre vie, glorifie le Seigneur ou pas. Ensuite, je pense aux attitudes avec lesquelles on fait les choses, parce que c'est souvent, ce n'est pas tellement la chose que nous faisons, mais l'attitude qui est derrière, la motivation qui est derrière. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, un peu plus loin dans cet épître, l'apôtre Paul leur parle de... On va rester sur cette... On remonte, s'il vous plaît, on revient en arrière. Dans le chapitre 13, il leur dit, il y a des dons magnifiques, les langues, la prophétie, le don de soi, le sacrifice, la libéralité, mais il dit, tout ça, ce n'est rien si ce n'est pas fait avec amour. Et puis, à la fin, il dit, tout ça va disparaître, mais trois choses demeureront. Vous vous rappelez ce que c'est ? La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand, c'est l'amour. Donc je me dis que les choses que nous faisons, les choses que nous disons, si ça jaillit d'un amour sincère pour le Seigneur et d'un amour sincère pour mes frères et sœurs, il y a de fortes chances que ce soit des œuvres qui durent. Je pense à autre chose. Quelquefois, nous pouvons voir dans nos attitudes quand quelque chose ne va pas. Quand il y a un petit grain de sable, vous savez, ces malheureux grains de sable qui viennent nous perturber. On est en train de servir le Seigneur, on pense qu'on fait quelque chose de très bien, et puis quelque chose qui va de travers, et puis quelle sera notre réaction par la suite? Je vous donne un exemple tout bête. Supposons que vous décidez, on va repeindre notre local. Donc vous venez de bonne heure un samedi matin et vous peignez ce mur-là tout en noir. Et puis le dimanche matin, il y a des gens qui rentrent pour le culte et qui voient ce mur tout noir et qui disent, mais qui a peint ce mur en noir? Alors vous pouvez avoir plusieurs réactions. Il y en a qui sont un peu... combatifs et qui retroussent les manches et qui disent « C'est moi, tu as quelque chose à dire à ce sujet ?» Il y en a d'autres qui vont prendre la mouche et qui vont partir tout de suite pour la porte en la claquant et en criant « Si c'est comme ça qu'on traite les bénévoles dans cette église, je n'y remettrai plus jamais les pieds !» Puis une autre réaction possible, c'est les hypersensibles. Alors là, quelqu'un a osé dire quelque chose au sujet de ma peinture. Je vais me coucher pendant 6 mois avec une dépression profonde. Je ne me relève plus. Il y a toutes sortes de réactions possibles, mais aucune d'entre elles que j'ai citées est très spirituelle, me semble-t-il. Parce que quand on travaille pour le Seigneur, eh bien c'est surtout sa gloire qui est en jeu, ce n'est pas la mienne. Ça ne devrait pas tant m'affecter que ça, que quelqu'un me reprenne ou dise ceci ou ça au sujet de ma manière de servir le Seigneur. Donc voilà quelques indices pour nous aider à voir si nous construisons pour l'éternité ou pas. Dernier point. Ces bâtisseurs d'églises durables ont compris l'énorme valeur de l'Église, l'extrême valeur de l'Église, selon ce texte. Ne savez-vous pas, Corinthiens, ne savez-vous pas, frères et sœurs de grâce, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Quelques précisions au sujet de l'expression « temple de Dieu » ici. L'apôtre Paul l'emploie 2 fois dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et puis ici. Au chapitre 6, il s'adresse aux chrétiens de manière individuelle et il leur dit « votre corps est le temple du Saint-Esprit ». C'est magnifique. Et puis tout de suite, il tire la conclusion en disant « alors ne faites pas n'importe quoi avec votre corps ». Et il leur parle d'immoralité. Mais ici, le contexte est différent et il ne s'adresse pas tant à des chrétiens individuellement qu'à une communauté de croyants, à une église rassemblée, et il leur dit, vous, assemblée de grâce, vous êtes ensemble, vous constituez comme des pierres vivantes le temple de Dieu. Et puis, ce mot « temple », il y a 2 mots en grec que nous traduisons « temple » en français. Un, se référer au temple de manière très large, avec le parvis qui était devant, où tout le monde pouvait se présenter. Et puis, il y avait un autre mot qui parlait du lieu très saint, où seulement le souverain sacrificateur pouvait aller une fois dans l'année pour faire l'expiation. C'est ce mot-là que l'apôtre Paul utilise dans ce texte. Il est en train de nous dire... Nous sommes ensemble le lieu très saint. Et c'est ça qui donne de l'importance à l'Église. Parce qu'il y a 2 manières de regarder l'Église. Il y a une manière humaine et une manière spirituelle. Alors on va dire ce matin que j'ai des lunettes spirituelles. Alors je les enlève pour l'instant et je vous regarde de manière humaine. Alors qu'est-ce que je vois ? Je vois un groupe de personnes, nous sommes peut-être, je ne sais pas, 35-40 personnes. Je vois, je suppose, des gens ordinaires. Est-ce que quelqu'un ici aurait gagné un prix Nobel? Non? Une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Bon, des gens ordinaires, ils sont assis, ils écoutent. Bof. Il n'y a rien de très particulier qui se passe ici. Ou je peux vous regarder avec les yeux de Christ, avec la pensée de Christ, et ça devient différent. À la maison, si vous pouvez venir chez nous un jour, vous verrez sur un meuble qu'on a dans le salon, une petite sculpture, c'est le buste d'une femme. Nous l'avons depuis 25 ans au moins. Mon épouse l'a hérité de sa grand-mère. Et c'est un vieux truc un peu poussiéreux. On n'y a jamais prêté très attention. Et nos filles, quand elles étaient ados, elles critiquaient tous les meubles et tout l'ameublement de notre maison en disant « ça c'est vieillot, ça, quand nous on aura notre maison, ça va être comme ça, ce sera Ikea, enfin, tout propre, tout beau, tout neuf. » Et ce truc-là, dès que vous êtes mort, ça part à la poubelle. Bon, on peut les féliciter, elles se projettent dans l'avenir. Mais... Et un jour, l'hiver dernier, je ne sais pas pourquoi, vraiment, je regarde ce truc, je le tourne et je dis, mais il y a un petit truc gravé en dessous. On ne l'avait jamais remarqué. Alors je prends une loupe et je vois quatre lettres gravées assez nettement, P-U-G-I. Alors, je vais sur Internet et je découvre que c'est un sculpteur italien un peu connu qui travaillait autour des années 1850. Et donc je vais sur des salles de vente sur Internet et je vois des sculptures très similaires aux nôtres qui se vendent pour 3 000, 5 000 euros. Alors j'appelle les filles. Quand on mourra, vous ne voudrez peut-être pas jeter la sculpture. Alors elles sont revenues à la maison. Puis elles ont regardé, elles ont dit, « Oh, c'est vrai que ça a un certain charme quand même. » Voyez, leur regard a changé. Alors qu'est-ce que je vois quand je mets mes lunettes spirituelles? Je vois des hommes et des femmes rassemblés autour de la présence de Christ. Et si je me mets à la place même de Christ, j'emploie une autre image. Pensez à un jeune homme qui est ici devant, dans l'église, très bien habillé. Et puis il y a les portes arrière qui s'ouvrent, une belle musique qui se lève, et une jeune femme tout habillée en blanc qui commence à venir. Elle est radieuse. Le regard de ce jeune homme, son cœur, il bat fort. Il se dit, c'est ma femme. Et quand Jésus-Christ vous voit, il se dit, c'est mon épouse. Je vous aime. Je vous chéris. Je me suis sacrifié pour vous sanctifier, pour vous présenter à Dieu. Voilà la valeur de l'Église. Je ferais mal mon travail si je ne soulignais pas l'avertissement qui est dans ce texte. Vous l'avez remarqué? Si quelqu'un détruit l'Église, je le détruirai. Je ne suis même pas certain de comprendre exactement ce que Dieu veut dire là, mais je sais que ce n'est pas bien. Et je sais que je veux être du côté de Dieu. Je ne veux pas travailler à son encontre. Je ne veux pas défaire ce que lui y fait. Imaginez des maçons qui travaillent à côté de vous, et qui construisent une maison, et puis toutes les nuits, il y a quelqu'un qui vient et qui enlève des briques. Ces maçons, ils vont trouver le gars, ils vont le passer à tabac. Il y a plusieurs manières, certainement, de détruire l'Église. Je vous laisse imaginer. Mais sachez qu'en faisant cela, on travaille contre Jésus-Christ. Des bâtisseurs spirituels ont compris l'énorme valeur de l'Église. On peut afficher la dernière diapositive, c'est simplement pour réfléchir et je vais prier. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'énorme privilège de te connaître. Tu as illuminé les yeux de notre cœur pour que nous puissions te voir, pour que nous puissions comprendre le salut en Jésus-Christ et l'accepter. Tu as fait de nous non seulement tes enfants, mais des co-ouvriers avec Christ. Quelle grâce! Seigneur, donne-nous de travailler avec toi. Donne-nous de travailler de manière mûre. Donne-nous de travailler de manière solide, fondée sur Christ, dans l'unité, dans le respect mutuel, comme ce texte nous y invite. Je te présente cette assemblée, je te demande ta pleine bénédiction sur elle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie pour votre écoute. Si je peux prendre seulement une minute de plus. C'est pour dire que je fais partie aussi d'une commission qui s'appelle la commission de services et de référence de nos églises CAEF, dont vous faites partie. Donc, c'est une famille d'églises avec une centaine d'églises en France. Et je pense qu'il y a une conscience grandissante du fait que ces assemblées appartiennent à une famille commune et qu'elles veulent travailler ensemble. Il y a quelques outils. Il y a par exemple la mission. Donc, j'ai laissé sur la table à l'extérieur un petit calendrier 2014 qui parle des quelques missionnaires qui sont envoyés par nos assemblées, surtout au Tchad. Il y a aussi une revue qui s'appelle Servir en l'attendant. Je trouve que c'est une petite revue très pratique. Ça ne vient que 4 fois dans l'année, ça ne coûte pas cher. Donc, prenez-les, c'est très édifiant. Le but, bien sûr, c'est que vous puissiez vous abonner par la suite. Et si vous avez envie de savoir un peu plus ce que fait l'Union d'Église, il y a une plaquette qui s'appelle Une synergie pour l'affermissement et l'implantation d'Église. Il y a plusieurs projets d'implantation d'Église en cours et vous pouvez avoir quelques informations là-dessus. Je crois qu'il y a une agape après, donc on restera avec vous, on aura l'occasion de mieux vous connaître.